Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La loi Avia contre la haine en ligne censurée par le Conseil constitutionnel. Le texte porte atteinte à la liberté d'expression, estiment les sages. Un revers de taille pour le gouvernement, nous dira Maxime Tellier dans un instant. La Convention citoyenne pour le climat dévoile ses premières propositions. Elle suggère notamment de rendre obligatoire la rénovation thermique des bâtiments. Rebondissement dans l'affaire Fillon. Eliane Houlette, ancienne procureure du parquet national financier, affirme avoir subi des pressions dans la gestion de l'enquête. Les explications à suivre de Florence Turne. Emmanuel Macron rend hommage au général de Gaulle et à Winston Churchill. Le président est à Londres aujourd'hui pour le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Un camouflet pour Donald Trump. La Cour suprême américaine valide le statut de 700 000 Dreamers, ces migrants illégaux arrivés mineurs aux États-Unis. La loi sur la lutte contre la haine en ligne a peut-être vécu. Le Conseil constitutionnel censure le cœur du dispositif du texte porté par la députée macroniste Laetitia Avia. Les sages estiment que les responsabilités confiées aux opérateurs numériques sont attentatoires à la liberté d'expression et de communication. La loi Avia a obligé les plateformes comme Facebook ou Twitter à retirer sous 24 heures des contenus considérés comme haineux sous peine d'une forte amende. Ce soir, Maxime Tellier, le dispositif imaginé par le gouvernement s'écroule.
Hormis le titre, rien n'était constitutionnel dans cette loi. Plaisante déjà beaucoup d'internautes ce soir sur les réseaux sociaux. Une partie de l'article 1 a en effet été censurée, mais aussi les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9 et encore des éléments dans les articles 10, 12, 18 et 19. Pour les nombreuses associations qui contestaient ce texte, c'est une victoire à l'ampleur inattendue. Arthur Messot est juriste à la Quadrature du Net, association qui défend les internautes et la liberté d'expression.
On est assez surpris que le Conseil constitutionnel soit aussi à ce point-là dans le rejet d'une politique du gouvernement, surtout que le gouvernement s'était assez engagé dans ce texte qui aujourd'hui est complètement massacré. Et d'habitude, le Conseil constitutionnel essaie un peu de trouver la chèvre et le chou, et là pas du tout, tellement l'atteinte était importante aux libertés, le Conseil a voulu marquer le coup en rejetant presque intégralement la loi. En fait, la société dans son ensemble s'est largement mobilisée contre ce texte absurde et a fini par l'emporter. Donc c'est à la fois une victoire et aussi un message d'espoir vis-à-vis de Internet et du numérique qui subit de plus en plus d'attaques sur nos libertés.
Le Conseil constitutionnel censure notamment l'obligation de retirer un contenu haineux en moins de 24 heures sans intervention du juge, sous peine d'amende. La loi était pourtant défendue par le gouvernement depuis un an à l'Assemblée et au Sénat face aux sénateurs Les Républicains qui ont donc déposé ce recours au Conseil constitutionnel. Le gouvernement n'a pas encore réagi, mais c'est un coup très dur, d'autant que la députée Laetitia Avia, qui portait ce texte, est également fragilisée, accusée de harcèlement par une partie de ses collaborateurs.
Maxime Tellier, merci. Que restera-t-il dimanche de la Convention citoyenne pour le climat? Les 150 citoyens tirés au sort pour participer à cette convention terminent leur travail cette semaine. À partir de demain, ils vont voter sur une série de propositions destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il appartiendra ensuite à Emmanuel Macron de retenir ou non certaines de ces propositions. Le président qui n'exclut pas le recours au référendum pour valider le processus. Véronique Rebérotte, bonsoir.
Bonsoir.
Que sait-on de ces propositions ?
Alors, il y a plusieurs mesures, évidemment 150. La mesure, on va dire, de justice sociale par excellence, car elle touche une population particulièrement précaire, eh bien, c'est celle qui touche les logements. Les 150 citoyens proposent de rendre obligatoire la rénovation thermique des bâtiments les plus énergivores d'ici 2030, plus aucune passoire thermique d'ici 10 ans, obligatoire aussi d'ici 20 ans, cette fois 2040, la rénovation de 20 millions de logements, pas assez isolés de manière globale. Un grand chantier national qui permettrait non seulement de réduire la facture énergétique, mais aussi de créer des milliers d'emplois dans le bâtiment. Cette proposition ambitieuse pourrait faire partie de celle soumise justement à référendum. Le président Macron aurait fait savoir qu'il n'y est pas opposé. Dans les propositions évoquées aussi d'une alimentation saine et des circuits courts, thème plébiscité, on l'a vu par les Français durant la crise du Covid, eh bien la création de fermes municipales et aussi de plateformes de regroupement de production autour si possible de pratiques agroécologiques, conscient également que les accords de libre-échange échanges ne vont pas dans le sens de ces circuits courts, les citoyens proposent eh bien, de renégocier au niveau européen, et pas seulement français, le CETA, le traité de commerce entre le Canada et l'Union européenne. Alors dans l'idée aussi de mettre un fin à la surconsommation, un frein, eh bien, les 150 citoyens proposent de former, d'éduquer les consommateurs que nous sommes à des pratiques de sobriété numérique, proposent aussi de réguler la publicité qui pousse à cette surconsommation, et notamment sur les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre, une sorte de loi E20 sur le climat, référence eh bien, à la loi E20 qui limite la publicité pour les alcools. Alors, on peut encore évoquer rapidement d'autres propositions de lutte contre l'étalement urbain, avec une proposition d'interdire immédiatement les aménagements de nouvelles zones commerciales périurbaines, réduire aussi la place de la voiture, accroître l'usage du train en réduisant la TVA sur les billets de 10 à 5,5%. Rien n'est joué, hein, vous l'avez dit, toutes ces propositions eh bien, doivent être votées d'ici dimanche soir avant d'être proposées au gouvernement, soumises au Parlement, pour devenir pourquoi pas des articles de loi et pourquoi pas soumises à référendum. Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui aura le dernier mot sur ce point.
Véronique Robérotte, merci. On en vient à présent à ce nouvel élément inattendu dans l'affaire Fillon. Éliane Houlette, l'ancienne procureure du parquet national financier, évoque publiquement les pressions qu'elle a subies dans ce dossier. La magistrate, aujourd'hui à la retraite, s'est exprimée la semaine dernière devant la commission d'enquête de l'Assemblée consacrée à l'indépendance du pouvoir judiciaire. En 2017, Éliane Houlette était à la tête du PNF et c'est à ce titre qu'elle avait dirigé l'enquête sur François Fillon quelques mois avant l'élection présidentielle. Florence Turme.
La subordination du parquet au garde des Sceaux nuit au traitement pacifié des affaires, en particulier dans le monde politique. Voilà pour le préambule énoncé par Éliane Houlette, qui invite implicitement à promouvoir une réelle indépendance des magistrats. Pour autant, l'ancien procureur national financier ne dénonce aucune pression directe de la part de la chancellerie, ni d'aucun des quatre gardes des Sceaux qu'elle a connus. Les pressions, explique Éliane Houlette, venaient plutôt du parquet général, auquel le PNF, parquet spécialisé, reste légalement soumis, et en particulier dans l'affaire Fillon.
Le plus difficile, franchement, c'est d'avoir été de gérer en même temps la pression des journalistes et surtout la pression du parquet général. Les demandes de transmission rapide des éléments sur les derniers actes d'investigation, les premiers éléments sur les actes de la veille, avant 11 heures, les demandes de précision, les demandes de chronologie générale, tout ça à 2 jours d'intervalle, hein, ou à 3 jours. Hein. Réunion, j'ai été convoquée au parquet général parce que le choix procédural que j'avais adopté ne convenait pas.
Elle avait choisi l'enquête préliminaire où on l'incite à ouvrir une information judiciaire, autrement dit à passer le relais à un juge d'instruction, ce qu'elle fera d'ailleurs effectivement quelques jours plus tard. Pour l'heure, aucun commentaire du parquet général en réaction aux déclarations d'Éliane Houlette face aux députés. Est-ce le fait de s'exprimer devant la représentation nationale ou son nouveau statut de retraité ? Toujours est-il que la parole de l'ancien procureur national financier semble s'être libérée au point de croiser quelques contradictions. Un an plus tôt, elle affirmait dans un entretien à Marianne n'avoir jamais reçu aucune consigne ni subi aucune pression.
Florence Turme, merci. Nous restons à l'Assemblée pour un autre exercice de vérité, la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Après le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, les députés ont entendu aujourd'hui le professeur Jean-François Delfraissy, président du comité scientifique, le groupe d'experts chargé de conseiller Emmanuel Macron. Jean-François Delfraissy demande aux politiques d'anticiper une éventuelle deuxième vague de contamination massive à l'automne, en évitant les erreurs de la première vague, Pierre Neveu.
Le rôle des politiques, c'est aujourd'hui de se préparer pour éviter l'impréparation. C'est le message qu'a fait passer ce matin le professeur Delfraissy aux députés membres de la commission d'enquête. Et compte tenu des observations réalisées dans l'hémisphère sud sur la propagation du virus, il alerte sur une possible deuxième vague fin octobre, début novembre, et d'expliquer qu'un confinement généralisé ne serait plus possible, comme il ne saurait être accepté par la population pour des raisons sociétales et politiques. Plus possible, car inutile auprès des populations les plus jeunes, c'est ce que constatent tous les spécialistes, alors qu'il faudrait toujours protéger les populations les plus fragiles, autrement dit, les plus âgées. Et pour éviter d'en arriver là, le président du Conseil scientifique Covid-19 recommande le respect des gestes barrières, mais surtout le recours aux tests, ce qui ne semble pas être pleinement le cas aujourd'hui, alors que l'on est en capacité de réaliser 70 000 tests par jour. Ne perdons pas cette capacité de test pendant l'été, avertit Jean-François Delfraissy, qui alerte les autorités. Cette éventuelle deuxième vague, il faut la préparer dès le mois de juillet. Ce n'est pas une prédiction, juste une recommandation.
Pierre Neveu, merci. Alors, pour enrayer la propagation de la Covid-19, le gouvernement compte sur l'application Stop Covid. Problème, moins de 2% des Français ont téléchargé ce dispositif de traçage qui permet d'alerter ses utilisateurs en cas de contact avec un malade. Stop Covid fait polémique. L'application collecterait un peu trop de données personnelles. Et de plus, elle n'est pas compatible avec les autres applis mises en place par nos voisins européens, Louise Baudet.
En jargon technique, on appelle ça l'interopérabilité. Comprenez la possibilité pour un touriste allemand, par exemple, de passer ses vacances en Italie tout en continuant à être alerté par son smartphone en cas de contact avec un malade. Mardi dernier, la Commission européenne annonce une solution technique qui rend compatibles les applis nationales. Toutes, non, car un pays résiste encore et toujours aux envahisseurs Apple et Google. La France, seul État membre avec la Hongrie, a avoir choisi une approche dite centralisée. Ce protocole prévoit l'exploitation des données par un serveur central, alors qu'ailleurs en Europe, les données restent dans les smartphones des utilisateurs via des logiciels développés par Apple et Google. Or, Paris refuse cette dépendance. Question de souveraineté. Résultat, géographiquement incontournable et première destination touristique mondiale, la France contrecarre les efforts de la Commission de Bruxelles et ruine ses espoirs d'harmonisation au rebours de l'ouverture pro-européenne inlassablement défendue par Emmanuel Macron.
Louise Baudet, merci. Covid, quel est l'usage du doute? C'est la question qu'Emmanuel Laurent imposera à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. Le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme revient longuement sur le racisme anti-noir. La CNCDH formule chaque année des recommandations au gouvernement pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Le rapport 2019 intervient alors que les manifestations antiracistes se sont multipliées en France. La Commission note que les personnes noires font partie des minorités les mieux acceptées, mais aussi les plus discriminées, Margot Delpierre.
C'est un paradoxe. Les Français s'estiment de moins en moins racistes ces dernières années. Globalement, l'indice de tolérance calculé par la Commission augmente. Il est de 79 sur 100 envers les personnes noires, 100 étant le plus haut niveau de tolérance. Selon l'historien Papendia, les discriminations viennent parfois de gens qui ne se considèrent pas comme racistes, mais ont des préjugés bien ancrés, hérités de la période coloniale. Par exemple, des fantasmes sur le corps des personnes noires perçus comme puissants et endurants d'un côté, et de l'autre une sous-évaluation de leurs capacités intellectuelles. Les Noirs sont surreprésentés en France dans les métiers peu qualifiés, femmes de ménage, nourrices, éboueurs ou vigiles. Ils occupent encore trop souvent une place subalterne dans la société française, déplore la Commission, et les contrôles policiers abusifs sont devenus pour eux une routine, quel que soit leur milieu social, a-t-elle constaté pendant ses auditions. À cela s'ajoutent des micro-agressions au quotidien qui peuvent partir d'un bon sentiment, comme la question « d'où tu viens vraiment ?». Alors que faire? La Commission demande au pouvoir public de développer des enquêtes pour mieux connaître ces discriminations, car on manque encore de données, de mener des campagnes de communication contre les stéréotypes. Elle recommande au CSA d'encourager la représentation des hommes et femmes noires dans les médias, y compris quand il s'agit d'inviter des experts. Elle conseille aussi d'axer davantage les programmes scolaires sur les racines multiculturelles de la France et leurs apports à la culture nationale.
Margot Delpierre, merci. La CNCDH relève aussi que le nombre de crimes et délits à caractère raciste est reparti à la hausse en 2019. La Commission a recensé 5730 faits en un an, soit une hausse de 11% après 3 années consécutives de baisse. Emmanuel Macron est à Londres aujourd'hui pour commémorer le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, l'acte fondateur de la France libre emmené par le général de Gaulle. Aux côtés notamment du prince Charles, le président vient de rendre hommage à son prédécesseur et à un autre héros du monde libre, Winston Churchill. Le reportage à Londres de Cyril Gradiani.
Les Britanniques ont mis les petits plats dans les grands pour commémorer avec la France Charles de Gaulle. Accueil par le prince Charles dans sa résidence en plein cœur de Londres et hommage au pied de la statue londonienne du général, Emmanuel Macron est venu en personne remettre à la ville de Londres la Légion d'honneur.
Ce soir-là, de Gaulle devint la voix et le souffle de la France libre. Il éleva la flamme de la résistance plus haut qu'un phare pour que son faisceau d'espoir depuis les rives de la Tamise porte sur tout le sol de France. L'homme qui allait porter à bout de bras le destin d'un pays à bout de souffle, depuis Londres, grâce à Londres.
La monarchie britannique, qui devenait le refuge de la République française, poursuit le chef de l'État. À ses côtés, le prince Charles ému rend hommage à son tour au général.
L'appel du 18 juin, prononcé par le général de Gaulle, incarne l'esprit de la résistance française. Mais mais il fait aussi écho à la détermination des Londoniens et de tous les citoyens britanniques qui refusèrent d'abandonner le combat pour la liberté.
Séquence commémorative avec la monarchie, puis en ce moment avec Boris Johnson. Au 10 Downing Street, le Premier ministre, qui a toujours respecté une distance de 2 mètres, c'est la règle ici, a montré au chef de l'État des objets symbolisant De Gaulle, et notamment une réplique du fameux micro de la BBC.
Cyril Graziani, envoyé spécial à Londres. Aux États-Unis, les revers judiciaires s'enchaînent pour Donald Trump. Lundi, la Cour suprême renforçait la protection des salariés homosexuels et transgenres contre l'avis du président américain. La Cour inflige aujourd'hui un nouveau revers aux locataires de la Maison-Blanche. La plus haute juridiction américaine valide le statut des Dreamers, ces migrants illégaux arrivés aux États-Unis alors qu'ils étaient encore mineurs. La correspondance de Grégory Phillips.
Le décret DACA avait été adopté en 2012 par l'administration Obama pour protéger les immigrés illégaux entrés aux États-Unis avant l'âge de 16 ans et les autoriser notamment à avoir un permis de travail renouvelable tous les 2 ans afin qu'ils ne soient pas soumis à une menace d'expulsion. Avant même son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump avait promis qu'il supprimerait ce statut accordé à ce qu'on appelle ici les Dreamers. Mais le 45e président des États-Unis ne pourra pas tenir cette promesse. La Haute Cour estime en effet que la décision d'annuler ce programme de protection est à la fois capricieuse et arbitraire. On note que le juge conservateur John Roberts, qui préside cette Cour suprême et qui a été nommé par George W. Bush, a fait pencher la balance du côté des juges considérés comme progressistes. Cette décision est une défaite pour l'administration actuelle, une victoire pour le camp démocrate et pour les 650 à 700 000 jeunes concernés, et certainement pas une bonne nouvelle pour Donald Trump à presque 4 mois de la présidence.
Grégory Phillips, correspondant aux États-Unis. Effectivement, première réaction de Donald Trump ce soir sur Twitter. Une décision horrible et politiquement orientée. Une claque aux républicains et aux conservateurs de ce pays. Voilà ce qu'écrit le président américain dans son tweet. En Chine, les autorités affirment avoir maîtrisé la résurgence de l'épidémie de Covid-19 à Pékin. Depuis la semaine dernière, 158 nouveaux cas avaient été recensés dans la capitale chinoise, mais le début de reconfinement aurait permis de juguler sa deuxième vague, en tout cas selon le discours officiel. Dominique André nous appelle de Pékin.
21 nouveaux cas de contamination aujourd'hui, c'est 10 de moins qu'hier dans la capitale chinoise. Au 7e jour de la découverte d'un foyer infectieux dans le marché de gros de Xinfadi, à 14 kilomètres du centre de Pékin, l'épidémiologiste en chef du centre de prévention et de contrôle des maladies affirme que l'épidémie est sous contrôle. Depuis près d'une semaine, la ville a imposé un plan de bataille pour juguler la contagion avec des mesures très strictes et éprouvantes pour les Pékinois. Wu Zunyo vient de s'exprimer devant la presse.
Je vous annonce clairement que l'épidémie à Pékin a été endiguée. Le pic de l'épidémie a été enregistré le 13 juin. Demain, après-demain, de nouveaux cas confirmés seront encore rapportés à Pékin. Ils ont été infectés avant la découverte du foyer. Les personnes vraiment nouvellement contaminées ne seront pas nombreuses. La courbe descendante va se prolonger encore un peu.
Selon l'épidémiologiste, les vendeurs de fruits de mer et de viande ont été les plus touchés sur le marché. Un environnement humide et froid serait favorable au virus. Une enquête est en cours. En attendant, la ville ne desserre pas l'étau. Aujourd'hui, une vaste opération de dépistage est menée dans plusieurs quartiers de Pékin. Le personnel des restaurants a été convoqué pour être dépisté.
Dominique André, notre correspondante en Chine. Le secrétaire général de l'OTAN annonce l'ouverture d'une enquête sur l'incident franco-turc lors d'une opération de contrôle de l'embargo de l'ONU la semaine dernière en Méditerranée. Jens Stoltenberg insiste sur la nécessité de respecter cet embargo. La France avait dénoncé le comportement extrêmement agressif de la Turquie dans cette affaire. Retour en France avec le temps demain, toujours contrasté, toujours des averses sur la moitié nord et sur les Pyrénées. Ailleurs, le ciel sera variable et même bien ensoleillé sur les régions méditerranéennes. Les températures minimales seront comprises entre 9 et 17 degrés du nord au sud. Quant aux maximales, elles iront de 17 à 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Belletto.